Allô?
Bonjour Elena, comment vas-tu?
Bonjour, ça va et toi?
Très bien, très bien. Alors, je suis David Melmans, l'éditeur des Forges de Vulcain. Alors ça, tu le sais, mais je le dis pour les gens qui découvriraient le fichier. Nous sommes le 24 avril 2020 et à la faveur du confinement et du virus coronavirien, j'appelle les gens qui font les forges, donc les auteurs, les autrices, le correcteur et maintenant une personne très importante pour les forges, parce qu'en fait, en dehors de moi, tu es la personne la plus ancienne dans les forges, Elena Vieillard, qui est graphiste et dessinatrice. Alors, est-ce que tu es partante pour un petit entretien?
Allez, allons-y.
Alors, j'ai dit que tu étais graphiste et dessinatrice, c'est comme ça que tu te définis professionnellement?
Oui, complètement.
D'accord. Alors, est-ce que toi, tu te souviens comment on s'est rencontrés ou non? Parce que moi, je me suis rendu compte que je m'en
Alors,
souvenais plus très bien.
ben ouais, ça remonte, ça fait 9 ans à peu près.
Ouais.
C'était à Paris et c'était moi un de mes premiers boulots. Mais c'était le début des forges. Après, je sais qu'on était dans un café un peu prestigieux, gare de Lyon, il me semble.
Oui, je me
Le train bleu.
souviens. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
Voilà.
Oh, pourquoi j'avais... Ah non, je pense que j'avais un déplacement à faire et donc je t'avais proposé de se voir là-bas. Si, je me souviens.
Voilà. Et ça, c'est pour le cadre.
Mais je pense, je me demande en fait si j'ai pas découvert ton travail, donc encore avant l'entretien, par un email. Je pense que tu écrivais aux maisons
Oui.
d'édition pour proposer tes services
Ouais.
et j'avais vu ton... Ça renvoyait vers ton site internet et j'avais vu ton travail. Alors, est-ce que c'était ton site internet ou est-ce que c'était
C'était
un
mon site
book?
internet,
C'était ton site
enfin oui,
internet.
mais c'était principalement des boulots d'étudiante et puis
Ouais.
quelques premiers boulots, mais vraiment je sortais des études, c'était mon tout début de travail freelance, quoi. Et en
D'accord.
effet, j'avais aspergé toutes les maisons d'édition de mails. Pour trouver du boulot.
Et t'avais eu d'autres
Et
réponses ou non?
vu la ville brûle comme ça.
Ah mais oui, je me souviens.
Ouais. Et puis non, hein, si j'ai eu des promesses qu'on se rappellerait plus tard, mais qui n'ont jamais vraiment abouti. Mais non, c'est des rares à avoir répondu, en effet.
Oui, alors moi je suis extrêmement heureux d'avoir répondu parce que ça fait donc 9 ans que tu travailles avec les forges. Alors je précise travailler avec, parce que je me suis rendu compte que souvent les gens qui connaissent pas l'édition mais qui aiment bien nos livres sont persuadés que une maison d'édition c'est une équipe avec plein de salariés, alors qu'en fait aux forges il n'y a pas de salariés, il n'y a que moi et des intervenants externes. Donc tu es une intervenante effectivement très très régulière, mais tu es une indépendante. Finalement, à ces jours-ci, en termes de graphiste, tu travailles que avec les forges au sein de l'édition. Voilà. Mais tu as travaillé dans plein d'autres domaines d'activité. Alors, je serais tenté de te. Alors, ton site internet est remarquable, donc je recommande vraiment aux gens d'aller sur ton site internet parce que ça décrit bien tout ce que tu sais faire. Je serais tenté aujourd'hui de te poser une question sur un projet. Alors, je précise que on n'a pas du tout préparé, donc si ça se trouve, ça va tomber complètement à l'eau, cette idée. Mais je me disais, aujourd'hui, c'est le premier jour du Ramadan en France, et
Ouais.
je me suis souvenu d'un de tes projets qui était la mosquée de Tremblay.
Oui.
Alors, est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Les photos sont
Ok,
superbes, hein.
ouais. Alors, donc j'ai fait les motifs, enfin le graphisme des tapis de la mosquée de Tremblay, donc les tapis qui recouvrent les 3 étages de la mosquée de Tremblay, qui est une très grande mosquée. Et ce projet-là, bah, pareil, il m'est tombé complètement dessus, mais absolument par hasard, parce que c'est un projet très intéressant et en même temps un projet monstrueux en termes de temps, d'organisation, du coup avec peu de moyens. Et du coup, tous les graphistes se refilaient ce projet qui a dû passer par une vingtaine de mains avant de tomber dans les miennes. Et donc voilà, ça aussi, ça correspond au début de mon activité où j'avais pas un rond. Donc moi, je prenais à peu près tout ce qui passait. Et donc j'ai fait ce tapis avec un collègue avec qui je bossais régulièrement avant, Benoît Bovis. Donc en fait, c'était très intéressant financièrement. C'était pas intéressant du tout parce qu'on a passé énormément de temps à faire ce truc-là. Mais c'était vachement bien. Du coup, voilà, on a rencontré les imams qui nous ont expliqué. Juste d'un point de vue pratique ce dont ils ont besoin, donc les lignes à tant de distance pour que les pour pouvoir s'aligner dessus pour lors de la prière, l'étoile sous le dôme, l'étoile sous l'imam et je sais plus d'autres étoiles placées à des endroits bien précis, des couloirs sur le bord de enfin des couloirs matérialisés graphiquement sur les bords de l'étage et donc avec l'étage homme, l'étage femme et l'étage fête.
D'accord.
Donc voilà. C'est pour le...
Oui, parce qu'il y a une zone bleue et une zone rouge. C'est,
ouais,
c'est
y ça y a la une différence. Zone verte aussi. Ouais, c'est
d'accord.
ça.
D'accord. Mais alors,
et
c'est
du
vrai
coup,
que...
ça répond à des critères, enfin, je sais pas, à des règles religieuses très précises. Après, nous, graphiquement, on a été très libres, mais en tout cas, fallait que ça remplisse plein de conditions, quoi.
Ouais. Ah non, mais je me dis, c'est comme... Alors, ce matin, j'ai reçu un mail d'une de mes anciennes stagiaires qui, elle a continué ses études d'édition. Elle me posait des questions sur comment on passait commande d'une couverture ou d'un travail graphique à une graphiste ou un graphique. Et je me suis dit que bah, je ne saurais pas le dire parce que finalement, je travaille avec toi, mais je n'ai pas énormément d'expérience. Mais je me dis que, par exemple, la commande graphique pour les tapis de la mosquée de Tremblay, ça a dû être quelque chose. Surtout que j'imagine qu'il y a des contraintes industrielles qui sont assez impressionnantes parce que c'est une grande surface, il y a des piliers par endroit, il y a...
Ouais, en fait, on avait un plan, je sais plus quelle échelle, et justement, les ordis, ils en pouvaient plus de planter, quoi, parce que c'est le motif, il fonctionne, enfin, sur l'ordinateur, faire un fichier de 2 mètres carrés, ça commence déjà à ramer, mais là, on était bien au-delà. Et donc oui, ouais, techniquement c'était une vraie galère, mais c'est pour ça que personne n'acceptait ce projet d'ailleurs. Après c'est de l'impression là, sur moquette. Enfin c'est vraiment comme une imprimante, donc il y a quand même plein de choses qui sont possibles assez facilement.
D'accord. Ben je peux que recommander d'aller sur ton site internet parce que c'est effectivement superbe. Alors après moi comme je connais ton travail, j'ai l'impression de reconnaître des choses à la Helena Vieillard, c'est-à-dire des motifs un peu graphiques, un peu ronds, mais qui peuvent emprunter un tout petit peu au code jeunesse, mais c'est pas non plus de la jeunesse. Non, c'est très très beau. Mais alors, attends, ça me donne envie de te poser. Il y a deux questions sur une question sur les briefs, une question sur la jeunesse. Alors, une question sur la jeunesse, c'est un peu particulier. C'est que, en fait, souvent, sur les couvertures que tu fais, notamment les couvertures que tu as fait sur la première période graphique des Forges, on me disait que ça faisait très jeunesse. Et en fait, moi, je trouve pas que ça fasse très jeunesse. Ça fait juste, c'est plus coloré et un peu moins. Comment te dire ça poliment, un peu moins chiant que la littérature adulte habituelle.
Ouais.
Mais est-ce que toi, parmi tes projets, il y a des projets jeunesse ? Est-ce que
il y en a très très peu. J'ai jamais trop réussi à. Enfin ça, j'aurais bien aimé bosser pour la jeunesse, mais j'ai jamais trop eu l'occasion. Parce que justement, en jeunesse, on est hyper libre justement sur la couleur, la créativité, l'univers visuel. On dit adulte et souvent en effet pas très funky et puis même avec les références des images très publicitaires en fait donc très lisses ça part pas dans tous les sens ce qui est pas le cas dans la jeunesse on se permet beaucoup de choses donc non j'ai jamais réussi à travailler pour la jeunesse après moi j'ai fait une scénographie par rapport à un auteur jeunesse. Mais enfin, voilà, c'est un boulot qui est un peu à part parce que c'est entre le graphisme et la construction, quoi.
Ouais.
Et enfin voilà, là je mettais en valeur le travail d'un artiste jeunesse, mais c'est pas exactement une demande jeunesse. Enfin, je sais pas si je suis très claire.
Non, si, t'es très très clair. Je suis devant la présentation. Effectivement, c'est une compétence différente de ta compétence habituelle. Il y a sans doute des choses que tu récupères de ce que tu sais sur comment organiser l'espace visuel, ce type de choses.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est un autre type de compétence.
Oui,
en fait.
Oui, ça, je l'ai fait qu'une fois d'ailleurs. Ouais.
Mais non, parce que moi, un serpent de mer de l'histoire des Forges, un truc que j'aimerais vraiment beaucoup faire un jour, c'est aller au Salon du Livre de Paris, mais faire fabriquer notre propre stand et tout confier le dessin. Mais bon, on n'y est pas encore, mais c'est agréable de savoir que tu as les compétences, que ce soit par ton excellence à la mosquée de Tremblay ou par cette excellence sur le travail de Léo Lioni, de produire ce type de choses. Bon, on verra en 2021. Si les forges sont toujours là, elles participeront au salon de Livre Paris 2021, sans doute. Mais, alors, non, je pensais à autre chose, c'est que parfois, quand on me demande comment j'ai repéré ton travail, je raconte une histoire, sauf que, en fait, cette histoire, je ne sais plus du tout si elle est vraie ou si c'est moi qui l'ai inventée. C'est
Vas-y,
que j'avais
raconte.
l'impression que tu avais participé à des affiches politiques. Et qu'en fait, j'avais été frappé parce que normalement, l'affiche politique, c'est quelque chose de très très laid actuellement. Ça a été
Ouais.
peut-être très frappant il y a 50 ans, 60, non, 80 ans plutôt, mais maintenant, c'est devenu quelque chose de toujours très laid et j'avais trouvé qu'elles étaient très percutantes. Et est-ce que c'est moi qui l'ai fantasmé ou est-ce que tu as effectivement eu une période où
Non,
tu faisais de
non.
l'affiche politique?
Ouais, en fait, j'ai fait donc mon diplôme, enfin mon diplôme de fin d'études, je l'ai fait justement sur la politique et j'avais fait mon diplôme de fin d'études sur la CGT. D'ailleurs, je l'avais un peu foiré mon diplôme en question, mais du coup, j'avais fait énormément de recherches justement sur l'affiche politique et justement le moment où elle est très graphique, très très parlante, très artistique. Et au moment où, en même temps que la politique, je parle la politique de gauche, se casse la gueule, le graphisme aussi. Et du coup, ils essayent de prendre au code de la droite où ça marche mieux. Enfin, du coup, de faire des affiches un peu marketing, un peu pub, mais sans les moyens, parce que la pub, pour réussir à ce que ça en mette plein la vue, faut vraiment plein d'argent en fait, parce que faut des moyens, de la photo, du décor et compagnie. Et quand on n'a pas un rond et qu'on essaye de faire comme ceux qui en ont beaucoup, souvent, ça ne marche pas. Et c'est le problème de l'affiche politique de gauche en ce moment. C'est une catastrophe. Et là, c'est en train de revenir justement à des vrais, enfin, avec des propositions graphiques beaucoup plus assumées. Et justement, avec le côté fait main, militant, etc., c'est en train de revenir doucement typographique. Le dessin beaucoup, abandonner la photo parce que la photo quand on n'a pas les moyens c'est une calamité souvent. Et du coup voilà, moi j'avais fait mon mémoire là-dessus sur les différentes vagues visuelles en affiches politiques. Et du coup le premier boulot que j'ai trouvé clairement c'était ça quoi, c'était l'Humanité, la CGT, le PCF. Et c'est de moins en moins visible sur mon site parce que il y a des gens que ça refroidit complètement de voir tout ça. Donc voilà, d'un point de vue professionnel, je me suis dit que je mettais un peu de côté mes convictions
Non, tu les
pour
mets pas
trouver
de
un peu
côté.
plus de boulot.
C'est
Enfin
juste
oui,
que.
elles sont visibles, mais ça saute moins aux yeux, quoi, on va
Oui,
dire
mais
ça
c'est
comme
ça.
ça.
C'est-à-dire que tu les affiches moins. Mais après, tu sais, les forges, c'est une maison, entre guillemets, qu'on pourrait dire de gauche, mais c'est pas quelque chose que je professe parce que je sais que parfois, on peut amener nos interlocuteurs à avoir une pensée d'extrême gauche, mais il faut pas
Ouais.
leur dire. Parce que si tu
Ouais.
leur dis, ça les braque. Mais
C'est ça,
voilà,
ouais.
c'est.
Oui, alors qu'au final, quand tu regardes, je bosse quasiment que pour des mairies du 93, enfin voilà, des choses comme ça.
Ouais. Mais là, j'ai vu, alors ça c'est quelque chose que j'avais pas vu, sur ton site, il y a une petite section sur les livrets et les réalisations graphiques que tu as faites pour la mairie de Montreuil.
Ouais.
Et effectivement, c'est superbe. Et c'est vrai que ça a quelque chose de très simple, mais de beaucoup plus percutant. En fait, je pense que effectivement, c'était ça, j'avais dû voir sur ton site internet peut-être un passage de ton mémoire ou un extrait visuel de ton mémoire, et ça m'avait frappé parce qu'effectivement, moi, au début des forges, j'avais pas de sous, donc j'avais tenté de faire des couvertures, et je me suis rendu compte que j'ai pas du tout ce type de compétences, c'est pas juste des compétences techniques, c'est vraiment une pensée. Et en fait, une belle couverture de livre, c'est comme une affiche, c'est-à-dire il faut que ça fasse passer un message, donc ça peut pas être juste purement commercial, mais il faut quand même que ça attire l'œil. Donc il y a un équilibre entre dire quelque chose et puis attirer un petit peu les gens, quoi. Mais alors, et ça me ramène sur une autre question qu'on a évoquée un tout petit peu plus tôt. Alors, quand on travaille avec des vrais, enfin, des gens qui sont hyper commerciaux, ils disent, ah là là, donne-moi ton brief. En fait, toi, tu n'utilises pas trop le mot brief. Généralement, tu me dis, qu'est-ce que tu veux comme couverture, de quoi parle le roman, ce type de choses. Est-ce que c'est quoi le processus d'Héléna Vieillard? Voilà, parce que en fait, je vais être très honnête. Moi, quand je discute avec des collègues éditeurs ou éditrices, je suis très très étonné de voir à quel point ils sont interventionnistes parfois. C'est-à-dire, ils
Ouais.
vont dire, alors la police, ça sera ça. Il faut que les mots soient organisés comme ça. On veut tel élément et voilà. Et moi, souvent, alors parfois, je vais intervenir au bout de, enfin, d'un moment, mais parfois, en fait, je te dis juste, bah, ça parle de ça. Et puis derrière, toi, pendant 3 jours, tu moulines et puis arrive la couverture. Parfois, du premier coup, elle est parfaite et ça sera la couverture finale. Parfois, on s'y reprend parce qu'on tâtonne. Mais voilà, donc comment ça se passe de ton côté, en fait? C'est-à-dire entre ce moment où je t'en ai parlé et puis la couverture arrive parfaite de l'autre côté.
Y a différentes choses, c'est que de tous les deux on bosse ensemble depuis hyper longtemps, donc enfin, du coup on a gagné en efficacité, enfin je vois un peu plus, enfin voilà ce que t'attends, tout ça. Et y a, moi en général, aux gens, quand je bosse avec des gens, je leur demande qu'ils me donnent des références de ce qu'ils aiment, enfin si c'est un éditeur, je leur demande s'il y a des collections de d'autres éditeurs qu'ils apprécient visuellement, je parle, ou même ça peut partir plus loin, des pochettes de CD ou quoi. Enfin déjà j'essaye de connaître l'univers visuel des gens avec qui je bosse pour pouvoir m'adapter un minimum. Et après, en effet, avec toi, je suis très libre et ça c'est très appréciable. Et c'est pas toujours le cas. Donc moi quand c'est verrouillé, ben je enfin voilà, moi j'ai appris de toute façon à répondre à des demandes, si on parle comme comme dans le travail. Donc voilà, moi je suis tout à fait capable de voir un brief, de respecter des consignes qui moi personnellement sont pas du tout mes goûts, de respecter une typo à tel endroit, telle image à tel endroit. Après j'ai toujours préféré quand j'étais plutôt libre dans la création, ce qui est du coup hyper agréable avec les forges entre autres. Et après, ben pour les forges en général, tu me donnes un tout petit résumé. Et en effet, je mouline pendant 3 jours, mais je suis pas du tout du genre à faire des brouillons ou je ne sais quoi. Je ne sais absolument rien. Et voilà. Après, c'est une sorte d'image en tête, mais uniquement en tête, qui est assez précise. Je suis infoutue justement de faire des essais, des propositions, des premières, enfin j'ai souvent beaucoup de mal à t'envoyer des premières versions pas vraiment finies. Je suis assez mauvaise pour ça. Et d'ailleurs c'est ce qui fait que j'ai vachement de mal à bosser en agence, parce qu'en agence faut toujours travailler, même quand ça marche pas, même quand ça vient pas. Et je trouve que justement en création il y a plein de moments en fait où ça, bah ça fonctionne pas quoi, c'est pas le bon jour, on n'a pas l'idée, puis il y a un moment clac ça vient. Et c'est vrai qu'en agence on n'a pas le droit de rester bêtement à rêvasser devant son ordinateur. Donc voilà, ça c'est ce qui est pratique avec les freelances, c'est que quand ça vient pas, je fais autre chose de ma vie. Puis souvent enfin ce qui est pratique en littérature, c'est que c'est des images très, enfin c'est très visuel quoi. Les romans, je parle des romans, parce
Oui, bien
qu'après
sûr.
les essais en sociologie et compagnie, c'est
Oui,
une autre
c'est une
paire de
autre
manches.
logique. Ben, cela dit,
Ouais.
alors c'est vrai que, alors c'est juste un point de détail, après on reviendra à cette partie de la discussion, mais c'est vrai que les forges, pour des raisons pratiques, se sont concentrées sur leur fiction sur les 4 dernières années. Mais en fait, toi, tu avais effectivement créé une maquette pour notre collection Essai, qui pour le coup marche très très bien, qui est très très appréciée. En fait, si moi je travaille pas trop cette collection Essai, c'est plus par manque de temps, parce que comme je suis tout seul, je me suis concentré sur la fiction. Mais c'est vrai qu'un des projets, c'est de réactiver cette collection Essai, parce que effectivement, je ne peux qu'encourager nos auditeurs et auditrices à aller sur le site Internet des Forges. J'ai regardé dans la collection Essai où c'est aussi une maquette d'Elena qui fonctionne très bien et qui est aussi très appréciée par les libraires en fait. Mais c'est vrai que en sciences humaines c'est très très différent parce que justement c'est une maquette typographique alors qu'effectivement en fiction on peut se permettre de faire des maquettes illustrées. Voilà.
Ouais.
Mais d'ailleurs, alors juste en passant, c'est que je te remercie de dire que tu apprécies la liberté que tu as aux Forges parce que moi j'ai toujours très très peur sur parfois en fait. Du premier coup, tu trouves la solution parfaite, Et il y a des couvertures qui ont été des immenses succès, alors que, en fait, c'est vraiment la première, on n'a pas passé des mois dessus, c'est-à-dire que tu as trouvé en une journée la bonne couverture. Et puis il y a des couvertures où, en fait, on ne trouvait pas la bonne solution et tu as refait version sur version. Et donc j'hésite toujours à te triturer comme ça parce que ça me gêne un peu. Mais c'est vrai que je vois que sur ton site internet, tu as mis en avant notamment Uther Pendragon. De ouais. Thomas Spock. Et je pense qu'il y a deux couvertures récemment qui t'ont demandé beaucoup de temps. C'est Uther Pendragon et Requiem pour une Apache, ouais. Le dernier Gilles Marchand. Ça va, tu m'en veux pas de t'avoir fait.
Non, ça valait le coup.
Oui, parce qu'à la fin, elles sont très très réussies. Mais c'est vrai que ouais. C'est des couvertures où moi, en fait, je compte les versions et il y a eu pas loin de 10 versions pour ouais. Chacun, quoi.
Ouais. Ouais.
Mais par contre, c'est vrai que là, sur la section de ton site où il y a les livres des forges, si on les prend dans l'ordre, je me demande si le Funambule, je crois qu'il n'y a eu qu'une seule version, le Tour de l'Inde, qu'une seule version, ouais. Supernormal, qu'une seule version, les Rumeurs du Mississippi, superbe, qu'une seule version, Contre-temps, qu'une seule version, Uther, bon, 10 versions. Martyr français, une seule version. Et Martyr français, on nous a fait une remarque, c'est pourquoi n'y a-t-il pas de prix pour les couvertures de livres? Alors, en fait, techniquement, je crois qu'il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment des prix assez confidentiels. Et ouais. Martyr français avait été mis, la librairie Mola, qui est la plus grosse librairie ouais. Physique française, avait fait un petit prix sur son blog en disant que c'était la meilleure couverture de livres de tout le mois de février 2017. J'abattrai l'arrogance des tyrans, première tentative. Super-héros, troisième division, première tentative. Alors, la fin du monde,
on avait galéré.
Ouais, on avait galéré, ouais. Mais je pense qu'il y avait aussi autre chose. C'est que c'était toujours très délicat de faire la couverture d'un livre dont l'auteur a lui-même fait des études d'art. En fait, grosso modo, tu avais fait une première version qui était très très bien. Et en fait, en parlant avec des libraires, ils m'avaient dit que ça faisait un tout petit peu sciences humaines et qu'il fallait peut-être faire un truc plus fiction. Et en fait, en rajoutant les mains, comme tu l'as fait, ça fait plus, on réintroduit un être humain. Et une bouche en personne. Alors en fait, oui, une bouche en personne, c'est particulier parce que c'est quand on a changé de diffuseur-distributeur en 2016 qu'on a eu quelques mois de pause et il fallait refaire les maquettes. Et donc toi, parce qu'une bouche en personne, c'est à la fois une maquette originale et puis c'est une forme de principe de collection en fait. C'est-à-dire oui. Ça lance... est-ce que quand toi tu l'as fait, tu pensais juste une maquette unique ou est-ce que tu savais que c'était un principe de collection?
Non, je pensais une couverture unique parce qu'on n'était pas parti sur l'idée de collection, mais en fait le titre qui a suivi, si je me souviens bien, c'était Martyr français,
ouais.
Qui marchait bien en suivant la même logique.
Oui, c'est vrai.
Sans personne, mais ça c'est le hasard. Et en fait après petit à petit, surtout à partir de Martyr français, on a réussi à décliner le principe.
Oui, parce que Martyr français avait été décalé dans sa publication, et donc effectivement, tu l'as fait juste après Une bouche en personne, mais effectivement, c'est sorti 6 mois après, en fait, pas juste ouais. après. Hein. Mais oui, parce que dans mon esprit, je ne savais pas si on allait repartir sur un principe de collection ou s'il fallait, à chaque nouveau livre, complètement réinventer la chose, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres en fiction, et donc faire apparaître graphiquement ce qui est caractéristique dans une collection, c'est vraiment très très difficile. Alors, justement, ça amène, puisque c'était un travail un peu graphique, mais en fait, tu es aussi dessinatrice, et tu as déjà publié de la BD. Donc, est-ce que tu peux nous parler d'Elena Villard, autrice de BD? En fait, tu en as fait deux de BD pour l'instant.
J'en ai fait deux, et là, je suis sur une troisième.
D'accord.
En fait, la troisième, c'est la première fois que j'ai une commande assez grosse. Parce que du coup, la première BD, c'était avec toi, c'était ouais. Gare ou les tribulations d'un pendu,
ouais.
où justement, tu m'avais, donc j'avais jamais fait de bande dessinée, tu m'avais laissé l'opportunité d'en faire une et de l'éditer pareil, en me laissant absolument libre. Mais du coup, voilà, c'était un coup d'essai. Après, j'en ai fait une deuxième, la brigade de répression du félinisme, où ça, c'était absolument pas une commande. C'est un truc que je faisais sur mon temps de chômage, j'ai pas le chômage, mais de, je sais pas moi, de chômage technique, on
de
va dire.
De intellectuel.
Bah de, voilà, au travail quand j'ai pas de travail, ce qui arrive assez régulièrement. Du coup, ça a filé sur des années, mais ça, enfin, je pensais pas que ça existerait ailleurs que pour le montrer à mon papa et à ma maman, clairement.
Ouais.
Et en fait, voilà, ça je l'ai montré à des éditeurs, mais sans trop y croire. Et ça a été pris donc par la boîte à bulles l'année dernière. Mais c'est vraiment, enfin, bah tant mieux. Et en fait, voilà, ça a lancé une troisième commande. Je suis dessus là en ce moment. Et donc voilà, là une commande avec contrat, un peu de rémunération, pas tant que ça, mais une bourse du CNL. Là, j'ai réussi à décrocher une bourse du CNL. Et donc ça s'appelle L'envers de Flin et c'est sur donc c'est sur le parcours d'une établie, donc d'une syndicaliste dans les usines Flin, enfin Renault à Flin,
oui.
Vermante-la-Jolie là. Et voilà, c'est son parcours de syndicaliste et de féministe au sein de l'usine. Donc voilà, ça c'est en chantier. C'est censé sortir dans un an.
Et t'as le droit de dire chez quel éditeur c'est ou...
Ouais, bah c'est toujours la boîte à bulles, du coup. C'est
d'accord.
Ceux qui m'ont édité le deuxième qui m'en ont commandé un troisième.
Ouais, mais le deuxième, la brigade de répression du féminisme est très, très réussie. C'est très, très beau, en fait. Mais j'ai un exemplaire chez moi, mais je t'ai jamais... On se voit pas très souvent, en fait. Donc, j'ai pas de dédicace, donc il faudra qu'à l'occasion... Surtout que... Enfin, à l'occasion, quand le confinement prendra fin, s'il prend fin un jour, que je te le fasse dédicacer. Et... Non, mais c'est ça qui est un peu... Alors, d'une part, je ne savais pas que tu as eu une bourse du CNL, donc félicitations. C'est vrai que, d'une certaine façon, d'une part, ça aide financièrement, mais aussi une reconnaissance du travail. Et c'est vrai que je pense que dans la BD, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut convaincre parfois les éditeurs et éditrices de BD. Moi, je ne suis pas éditeur et éditeur... je suis lecteur de BD, mais je ne suis pas vraiment éditeur de BD. Mais il faut les convaincre qu'on peut... tenir la longueur, parce que c'est vrai que moi je t'ai vu travailler sur Edgar, c'est un travail titanesque de faire une
BD. En plus justement sur Edgar j'avais pas vraiment trouvé un trait confortable pour moi, enfin ça a été assez dur techniquement je dis à tenir, alors justement sur la brigade de répression là j'ai un trait vachement plus lâché, plus libre, et du coup je dessine bien plus vite et plus, enfin c'est plus agréable de travailler. Du coup là voilà, je pense avoir trouvé un trait qui me correspond en bande dessinée du moins. Et voilà,
c'est vrai que moi là je relis, mais grâce à ton site internet, quelques pages d'Edgar, c'est frappant de voir sur le fait que c'est du dessin mais qui ressemble presque à une forme de gravure, avec quelque chose de d'assez dur, de très impressionnant, de très composé aussi, que moi je trouve très très beau. Mais c'est vrai qu'on voit dans ta deuxième bande dessinée quelque chose de plus souple,
de plus fluide, ouais, complètement.
Voilà, et aussi où tu t'émancipes aussi un peu de la case.
Ouais.
Ce qu'Edgar, pour le coup, est assez cinématographique, avec peu de cases, très original, très carré, très composé. Où on était encore très proche de l'affiche, d'une certaine façon.
Oui.
Alors que la brigade de répression du félinisme, là, on est vraiment plus dans la vraie BD, tout simplement. Voilà. Bon, bah, c'est super. Un prochain, ça veut dire, c'est Angoulême 2022. Voilà.
Ouais, après, je sais pas si je vais réussir à tenir mes, mes délais, mais...
Mais alors, tu sais, la blague, c'est qu'une fois, j'ai rencontré un gros éditeur de BD, dont je tairai le nom, et je lui disais que ça présenterait peut-être un intérêt pour nous si on fait des romans qui sont des romans de fantasy. Tu sais, dans la fantasy, c'est beaucoup ouais. plus dessiné, de passer par ces dessinateurs. Et il m'a dit, je t'interdis de travailler avec mes dessinateurs, parce qu'en fait, pour eux, c'est plus intéressant de faire une couverture de livre que de faire leur planche.
Ah bah,
et donc, ils sont systématiquement en retard à cause de ça. Et donc, je ne te donnerai jamais leur nom, ni leur email, et voilà. Mais bon, et alors, quelque chose que je n'avais pas prévu aussi de te poser, mais finalement c'est quand même une curiosité, c'est que quand j'ai appelé les autres, enfin les gens qui font les forges, les auteurs, principalement auteurs, autrices, souvent ils ont d'autres pratiques artistiques qui nourrissent leur pratique d'écrivain. Et toi, tu as une autre pratique artistique, je sais pas si tu as le droit d'en parler, mais tu es aussi un peu, comment dire, musicienne, c'est ça? J'ai le droit de le dire ou... Voilà.
Ouais, oui, si, si, tu as le droit.
Ah, j'ai le droit, d'accord, ok, je t'ai pas outé ou un truc comme ça.
Non, justement, j'ai même mis sur mon site internet depuis peu, donc ça y est, j'assume. Donc oui, je fais partie d'un groupe de punk, les Vulva Assassines, ouais. Donc punk, électro-punk, rap, féministe. Voilà, on est trois gonzesses sur scène, c'est bête et méchant, mais ça prend forme.
Ah, mais moi, je trouve que c'est du vrai punk, en fait. C'est ça qui est bien, parce que finalement, ce qui m'a toujours surpris, c'est que le fond culturel punk, ça a eu beaucoup d'influence. Mais en fait, les gens ont copié que la surface du punk et pas l'esprit punk. Et là, quand on voit vos clips et tout ça, et quand on écoute vos paroles, il y a du vrai, vrai punk. Voilà, c'est vraiment l'esprit punk reste, même si formellement, c'est pas du punk rock comme ça a pu exister. C'est plus moderne, et voilà. Mais voilà. Et puis, j'ai le CD de Godzilla 3000. Godzilla 3000, c'était votre premier album. Hein.
C'est notre premier album, ouais.
Bon, et alors, est-ce que toi, qu'est-ce que, en dehors du travail graphique que tu fais pour Godzilla 3000, comment la scène, ça te, tu as l'impression que ça t'influence pour ton œuvre visuelle ou non?
Non, j'ai l'impression plus que, justement, graphiquement, les Vulva Assassines, là, c'est mon groupe, donc je fais absolument ce que je veux et ce qui est...
C'est-à-dire que tu fais les briefs et tu fais l'exécution du brief.
Oui, en fait, moi, justement, dans ce que tu disais de l'esprit punk, entre autres, c'est que même si on ne sait pas faire dans le groupe là, de musique, on fait quand même. Et donc moi, clairement, en musique, je suis une véritable bille. J'ai appris un peu sur le tas ce que j'ai pu, mais voilà, j'ai aucune maîtrise musicale. Ce qui m'empêche pas d'aller faire des concerts quand même, mais pour le coup, moi là où j'apporte un truc un peu pro dans le projet, parce que les autres copines sont plus musiciennes que moi, c'est graphiquement, donc elles me foutent une paix royale sur toute l'image, toutes les images du groupe, donc je fais absolument ce que je veux à la fréquence que je veux, donc je mets bien plus d'images que dont j'aurais besoin, quoi, enfin. Sur les réseaux, le site internet, on a un site internet qui était hyper chiadé avant même qu'on ait vraiment des morceaux de musique. Enfin voilà, donc ouais, moi c'est un bon terrain de jeu visuel.
Oui, c'est un
là,
endroit où tu es plus libre créativement.
Ouais.
Mais cela dit, je comprends très très bien l'exaltation qu'il y a quand on ne sait pas faire quelque chose, le faire, et voilà, parce que finalement, les forges, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que initialement... Non, mais c'est pas ça. Les gens avec qui je travaille, c'est-à-dire toi ou Marc, le correcteur, ou certains des écrivains, les traducteurs sont des professionnels, mais moi, je venais pas de l'édition, donc j'ai vraiment appris sur le terrain, quoi. Et alors, je vais te laisser, parce que il faut pas qu'on fasse des émissions trop longues, on m'a dit, mais s'il y a... Est-ce qu'il y a vraiment une couverture des forges qui t'est particulièrement plu, dont t'es particulièrement fière?
Merde, tu me demandes ça à la tac-tac. Mais je crois, Hyperpont Dragon. Hein.
Ouais, bah écoute. J'ai pensé hier en plus parce que il y a une jeune femme qui a fini la lecture d'Uther et qui mettait en ligne son commentaire sur Uther. Et en fait, elle commentait longuement la couverture en disant que pour elle, la couverture était parfaite parce que ça synthétisait tout. Et elle repérait des choses que j'avais pas repérées, mais qui étaient très très justes sur le fait que Uther, c'est la tension entre deux frères qui sont Uther et Pendragon. Et elle voit dans ta couverture une forme de réflexion sur le yin et le yang, c'est-à-dire sur le fait qu'il y a deux types de drapeaux qui s'entremêlent et qui sont en conflit, mais qui en fait créent un équilibre. Et voilà, je t'enverrai le lien vers le commentaire de ta couverture, mais on sent que ça l'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Elena Vieillard, merci énormément de t'être prêtée à cet exercice. Ces jours-ci. Alors, est-ce que tu peux me dire sur... tu es en train de travailler sur une nouvelle couverture pour les Forges de Vulcain. Est-ce que tu peux nous dire sur quelle couverture tu travailles? Est-ce que tu t'en souviens, en fait?
C'est celle que je n'ai pas commencée.
Ah,
c'est
voilà.
Celle sur... j'ai lu... je ne me souviens plus du titre.
Ça, c'est... Alors, je crois que c'est Jésus-Christ président.
Jésus-Christ président. Voilà, ça, je travaille activement dessus, comme tu peux le voir.
Non, mais maintenant je connais ton processus. Alors, de toute façon, il y a un truc très simple, c'est que on en parlait avec Gilles Marchand hier, parce que cette semaine, t'as fini la couverture de son nouveau roman qui sort fin août. On en parlait avec admiration sur le fait qu'en fait, ni lui ni moi ne savons comment tu travailles, mais on sait juste qu'à la fin, il y a des superbes couvertures. Donc, en fait, on n'a pas nécessairement besoin de savoir, mais écoute, je te fais toute confiance. Le prochain sur lequel tu travailles, donc, c'est Jésus-Christ Superstar, qui est le nouveau roman de Luc Reinhardt, l'auteur, de L'Homme D. Et d'ailleurs, félicitations encore pour la couverture de L'Homme D, parce que j'ai encore eu des remerciements cette semaine pour cette couverture. Toujours agréable d'avoir des remerciements qui ne sont pas pour moi.
Édité ce livre, il est vachement bien. Je l'ai signé pendant le confinement.
D'accord. Ah bah oui, c'est un grand classique. Hein. Mais j'en suis très fier. Alors les Luc Reinhardt, on va en faire 9, je crois, 9 ou 10. Donc ça va t'occuper, je pense, encore pendant 4-5 ans. Voilà.
Ok, parfait.
Elena, merci énormément. Je te souhaite une bonne fin de confinement, de prendre soin de toi. Voilà.
Et bah pareillement.
À bientôt.
Salut.
Salut.